Et il est 19h sur Europe 1.
L'essentiel, c'est de repérer les personnes qui ont une quantité importante de virus dans la salive, puisque ce sont elles qui sont l'origine de contamination.
Moins invasif et tout aussi fiable au lieu du test PCR, et si on essayait des tests salivaires ? Reportage à Montpellier, où un laboratoire mène l'expérience avec succès avec le CHU et le CNRS.
Emmanuel Macron visite dans un EHPAD aujourd'hui, l'occasion pour lui de lancer l'immense chantier sur le grand âge, un enjeu économique et humain bien sûr.
Notre façon de travailler, votre façon de travailler est-elle sur le point de changer durablement ? Le patronat accepte en tout cas d'ouvrir une première négociation avec les syndicats le 3 novembre pour parler télétravail.
À l'ONU, Donald Trump passe à l'attaque et pointe une nouvelle fois la Chine comme responsable de la propagation du coronavirus.
Quand les voitures ne sont pas là, les vélos dansent. Journée mondiale sans voiture aujourd'hui, l'occasion de revenir sur le boom des déplacements à vélo, pas forcément à la grande joie des piétons.
À découvrir dans quelques secondes. Et puis, la tendance météo avec vous, Anissa. Doux et pluvieux au programme demain.
Oui, les températures sont encore douces. Demain, ça sera le dernier jour avec une perturbation pluvieuse qui arrive par l'ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Tandis que l'on redoute une deuxième vague de coronavirus en France, la lutte s'organise sur deux fronts. D'un côté, les mesures de précaution, les gestes barrières, les interdictions, notamment de rassemblements massifs, comme dans le Rhône hier ou le Gard aujourd'hui. Et puis sur l'autre front, les tests. Et on vous emmène ce soir à Montpellier, où la société EasyCov travaille avec le CHU et le CNRS depuis plusieurs mois pour mettre en place des tests salivaires.
Oui, moins invasifs et tout aussi fiables, assurent les médecins du CHU qui utilisent ce test. Benjamin Péter, vous avez vu comment tout cela fonctionne concrètement ?
Oui, on récupère un peu de salive avec une pipette sous la langue. Le prélèvement est chauffé deux fois dans une petite valise. On lui ajoute un révélateur de couleur. Jaune, c'est positif. Orange, négatif. En moins d'une heure, vous êtes fixé. L'idée pour Franck Molina, qui pilote le projet au CNRS, c'est d'être complémentaire des tests PCR classiques.
Ces résultats n'ont pas besoin d'être faits en congestionnant les laboratoires d'analyse. Ils peuvent aussi être réalisés sur le terrain, à l'entrée des EHPAD, au sein des entreprises. Nous pensons qu'en termes d'efficacité aujourd'hui, il faut multiplier les points de test plutôt que augmenter le flux sur un très petit nombre de points de test.
Alors vendredi, la Haute Autorité de Santé recommandait les tests salivaires, mais seulement pour les patients symptomatiques, incompréhensibles pour le professeur Jacques Rennes, qui réalise l'évaluation de ces tests grandeur nature au drive du CHU.
On est assez surpris, nous n'avons pas ces résultats actuellement. La salive est peut-être un peu moins sensible que la localisation rhino-pharyngée, mais l'élément essentiel, c'est de repérer les personnes qui ont une quantité importante de virus dans la salive, puisque ce sont elles qui sont l'origine de contamination.
Ils ont donc prévu de publier des résultats intermédiaires de leur étude d'ici la fin de la semaine pour convaincre le gouvernement et la Haute Autorité de Santé de la fiabilité de leur procédé.
Benjamin Péter pour Europe 1, et on en est aujourd'hui à 31 338 décès dus au coronavirus en France.
Oui, c'est dans ce contexte que le président de la République était lui en déplacement dans un EHPAD dans le Loir-et-Cher aujourd'hui.
L'occasion de revenir sur l'extrême prudence dont chacun et chacune doit faire preuve pour éviter de transmettre le virus aux personnes âgées. On sait que les indicateurs de propagation du Covid chez les plus de 65 ans sont inquiétants. Emmanuel Macron en a également profité pour mobiliser autour du vaste chantier du grand âge qui va débuter tout prochainement, un enjeu politique, sociétal et économique.
On vit de plus en plus vieux dans nos sociétés et nous devons nous en féliciter parce qu'on prévient mieux, parce qu'on soigne mieux. Mais ça suppose aussi d'adapter notre réponse. Et ce sera au cœur de ce que dans les prochaines semaines, nous allons avec la ministre lancer le Laroc de l'autonomie, où on va permettre, avec l'ensemble des professionnels, au fond, d'investir dans le grand âge. Ça veut dire revaloriser des métiers qui ne sont pas suffisamment valorisés, donner plus de liberté aux acteurs de terrain, leur permettre de décloisonner les choses, de mieux travailler entre les établissements, l'hospitalisation à domicile. Et puis c'est un travail de réorganisation et de réinvestissement qui passe par de l'innovation d'organisation, qui passe par de l'innovation en termes de domotique, mais qui est de savoir comment nous redonnons une place à nos aînés pour vivre heureux dans la société.
Emmanuel Macron qui était en visite dans un EHPAD du Loir-et-Cher. Avec la crise du Covid, vous avez et nous avons presque tous et toutes expérimenté, de près ou de loin, le télétravail, un changement radical dans notre manière de travailler et même, disons-le, dans notre manière de vivre.
Oui, c'est pour mieux s'adapter à cette nouvelle pratique que le patronat et les syndicats ont convenu de discuter ensemble en novembre prochain. Alors Olivier Samin, les décisions qui sortiront de ces échanges pourraient-elles changer durablement, eh bien, notre manière de travailler ?
Alors il est encore un peu tôt pour le dire. La nouveauté du jour, c'est le fait que le patronat, qui ne voulait pas en entendre parler jusque-là, accepte finalement d'ouvrir une négociation avec les syndicats sur la question du télétravail. Non pas, précise-t-il aussitôt, pour aboutir à un texte qui ajouterait des règles à ce qui existe déjà, mais pour permettre une mise en œuvre réussie du télétravail dans les entreprises. On voit tout de suite la nuance. Les syndicats qui réclamaient la négociation d'un accord en bonne et due forme avec l'instauration d'un cadre nouveau applicable à toutes les entreprises, les syndicats restent un peu sur leur faim, mais acceptent malgré tout de prendre part à cette négociation. Tous les syndicats, sauf un, qui réserve encore sa réponse, la CFTC.
Dans ces négociations, Olivier, il sera notamment question de sujets qui n'étaient pas d'actualité il y a quelques années et qui sont vraiment apparus au grand jour avec le télétravail de masse imposé.
Oui, le télétravail comme réponse à des circonstances exceptionnelles, par exemple, voire à des cas de force majeure. L'articulation du télétravail avec la vie de famille, sujet ô combien sensible pendant le confinement. Les changements nécessaires en matière de pratiques managériales, les enjeux territoriaux aussi et l'usage des tiers-lieux qui ne sont ni le domicile ni le bureau. Autant de thématiques sur lesquelles tout reste à écrire.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
À l'ONU, Donald Trump attaque la Chine une fois de plus, qu'il cible comme responsable de la propagation du Covid-19.
La Chine avait pourtant joué l'apaisement avant son allocution, assurant qu'elle ne souhaitait pas entrer dans une nouvelle guerre froide. La réponse du président américain s'est faite, comme souvent, assez virulente.
Nous sommes engagés dans une bataille féroce contre l'ennemi invisible, le virus chinois. La nation qui a lâché cette plaie sur le monde doit rendre des comptes. C'est la Chine. Dans les premiers jours de l'épidémie, la Chine a stoppé ses vols intérieurs, mais elle a autorisé des avions à quitter la Chine et à infecter le monde. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est en fait contrôlée par la Chine, ont déclaré à tort qu'il n'existait pas de preuves de transmission humaine. Les Nations Unies doivent tenir la Chine pour responsable de ces actes.
Le président Donald Trump, les États-Unis qui ont franchi la barre des 200 000 morts liées au Covid aujourd'hui sur près de 7 millions de cas recensés.
Europe 1, Julien Bugier.
19h08, la suite de votre journal dans quelques instants. Et on évoquera ces vélos de plus en plus nombreux dans nos rues, dans nos villes, des cyclistes qui se croient parfois tout permis et des piétons pas franchement ravis.
Et puis il sera question de cinéma avec la sélection de Mathieu Charrier, Blackbird et Les Apparences.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, 19h10, la suite de votre journal avec Simon Rubin. Et c'est la journée mondiale sans voiture aujourd'hui. Vous l'aurez remarqué de manière générale, depuis quelques mois, on voit de plus en plus de vélos dans les rues, dans les villes. Le vélo, la grande alternative évidemment à la voiture.
Mais la cohabitation est parfois difficile avec les piétons. Ça vous est peut-être arrivé de devoir prier au moment de traverser la rue, tremblant parce que des dizaines de vélos slaloment dans tous les sens, voire grillent les feux. Si c'est le cas, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul.
Reportage. Mais pas de vélo, vous. Hein.
Ah si, j'en ai un. Je respecte les feux. Pas forcément comme les utilisateurs que Laura Taouchanoff a rencontrés.
Le long de la Seine, ces nouvelles autoroutes à vélo, ce sont chaque jour plus d'un millier de cyclistes qui déboulent à 20 km/h au point de changer le rapport des piétons à la route.
Bah là, c'est bon. Le monsieur, il est tranquille, donc il s'est arrêté. C'est bon.
Pas facile pour Maryse.
Moi, je lève la main pour signaler que je vais traverser. J'ai maintenant ce réflexe. On en est là, quoi.
Des salariés pressés après la pause déjeuner, des jeunes, musique à fond dans le casque, et des livreurs en pleine course contre la montre. Ces cyclistes sont devenus rois, déplore la Parisienne.
C'est dommage parce qu'on est tous piétons dans la vie et il n'y a pas ce réflexe de dire c'est le feu rouge, je m'arrête. On est obligé d'avoir les yeux partout. C'est le risque au quotidien.
Un espace public devenu une jungle pour les piétons, admet Jean-Marie Darmian, le président des clubs des villes et territoires cyclables, pour qui il va falloir trouver le moyen de cohabiter.
Le sentiment de liberté que donne le vélo, qui est peut-être nouveau pour certains, fait croire que tout est permis et qu'ils n'ont pas respecté de règles. L'absence de pratique citoyenne du vélo peut être un obstacle très fort à son développement dans les prochaines.
Un boom de cyclistes qui sature déjà les 500 km de pistes supplémentaires construites en France depuis le mois de mai.
Le reportage de Laura Taouchanoff, qui est cycliste également. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'enquête portant sur ses liens avec l'homme d'affaires Moed Altrad. Ce dernier ainsi que trois autres personnes ont également été placées en garde à vue. Bernard Laporte, dans un courrier adressé aux clubs amateurs du pays, dénonce une tentative de déstabilisation à moins de deux semaines de l'élection pour la présidence de la FFR.
Et puis un autre dirigeant sportif devant la justice, le président du PSG, Nasser El Khelaifi, le parquet suisse a requis 28 mois de prison contre lui dans le cadre d'une affaire d'attribution de droits télé avec la FIFA.
Parlons cinéma en cette veille de sortie en salle avec vous, Mathieu Charrier. Ce soir, vous nous proposez deux films. Et le premier, c'est un film européen, Blackbird, signé Roger Mitchell, qui avait notamment fait battre des cœurs avec Coup de foudre à Notting Hill.
Oui, Blackbird, qui est un film lumineux, malgré le thème difficile qu'il aborde, celui du système du suicide assisté. L'histoire, elle est simple. C'est Lily, qui est jouée par Suzanne Sarandon. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative. On le voit à l'écran, son corps est en train de la lâcher et elle a décidé de se donner la mort. Mais juste avant, elle invite sa famille et sa meilleure amie dans la maison familiale pour profiter ensemble d'un ultime week-end. Alors tout le monde est au courant de la situation et ça donne un film vraiment bouleversant sur la famille, sur les sentiments familiaux. Car pendant tout le week-end vont s'enchaîner règlements de compte, non-dits, mais aussi déclarations d'amour et vrais moments de complicité. Drôle même parfois. Donc n'ayez pas peur du thème, allez voir Blackbird, l'expression est convenue, mais vraiment vous allez passer par toutes les émotions.
Bien, et dans un autre style, votre deuxième choix ce soir, ça s'appelle « Les apparences » et c'est porté par Karine Viard et un certain Benjamin Biolay.
Exactement. Là, c'est l'histoire d'un couple prêt à tout pour sauver justement les apparences. En l'occurrence, Eve et Henri, ils vivent à Vienne. Lui est un grand chef d'orchestre. Elle travaille à la bibliothèque de l'Institut français. Voilà, ils vivent dans un grand et bel appartement. Bref, en apparence, le couple parfait. Jusqu'au jour où Eve découvre qu'Henri la trompe. Rien de très original, vous allez me dire. Sauf que tout leur entourage commence petit à petit à être au courant. Et Eve n'a alors qu'une idée en tête, sauver son couple et se venger en couchant elle-même avec un jeune homme qui va ensuite la harceler. Voilà, vous avez tous les ingrédients d'un bon thriller social angoissant, une comédie autour des mœurs, très inspirée de l'univers de Chabrol, qui croque aussi la vie des expatriés. Ça s'appelle donc Les Apparences et c'est signé Marc Fitoussi.
Merci Mathieu Charrier, notre spécialiste cinéma.
Vous en parlez super bien, ça donne très envie.
Ah, tant mieux.
Et c'est important en ce moment pour soutenir le cinéma. Exactement. D'aller dans les salles si vous en avez l'occasion. Merci pour le journal Simon Rubin. Merci. Et à demain.